Nous sommes bien en direct du Baume Café, 7 rue Plétinex, à côté des Halles Saint-Géry. Nous sommes en studio volant aujourd'hui, à l'occasion du festival Nourrir Bruxelles. Donc ici, je suis en co-anime avec Sophie, une autre bénévole du Baume, et avec Guillaume à la régie, Maya, Karine, Christina et Sébastien, qui sont nos intervenants du jour, donc des membres de La Claque, Forum des potagistes et occuperont le terrain, entre autres, pour chacun. Ils prendront à chacun leur tour de parole. On est potentiellement de temps en temps dérangé par des personnes qui y rentrent, parce que c'est la nature d'un café, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que de quoi on va parler, en fait ? On va parler de l'occupation du terrain.
Aujourd'hui, on parle de la lutte contre la bétonisation des espaces naturels à Bruxelles, en région bruxelloise, et aussi de convergence des luttes. Donc, on vient d'écouter un documentaire des patates et des luttes produit par l'ACSR qui retrace justement de multiples luttes en Belgique qui se fédèrent autour de la patate et notamment qui parlait de la ZAD de Haren dont on va parler un peu plus ce soir.
Oui. Effectivement, donc je vais peut-être commencer pour ça parce qu'en fait on a en premier pensé, bon, en premier c'est pas très important à qui on a pensé en premier, mais Maya de La Claque, si tu peux prendre un micro. Est-ce qu'on t'entend Maya? Je ne sais pas.
Oui, on t'entend, on dirait.
Ah, super. Donc Maya, si tu peux te présenter ton collectif, pas trop en détail, mais nous positionner en fait dans ta lutte en fait.
Ouais, du coup... Je fais partie de la CLAC, qui est l'acronyme de Collectif de lutte anticarcérale. Et donc, c'est un collectif qui s'est créé, en fait, via la lutte contre la construction de la maxi-prison de Haren. Et dans laquelle, en fait, la dernière occupation et la dernière expulsion avant vraiment le début des travaux a rassemblé quelques personnes. Il y a eu un blocage organisé du chantier et des... Et donc, suite à ça, on a décidé de continuer de s'organiser sur les prisons qui existent déjà et de continuer à lutter contre la construction de prisons parce que la maxi-prison de Haren, elle fait partie d'un master plan et, qui prévoit la construction de plusieurs lieux d'enfermement. Et aussi où on voulait, il y avait une volonté de s'organiser avec les personnes concernées. Et donc voilà, ça fait un peu près 2 ans que la claque existe et peut-être un peu plus, ouais. Et donc il s'est passé plein de trucs depuis. La prison, elle s'est effectivement construite et on en parlait tantôt. Faudrait quelqu'un dise, ouais, ça fait un pincement au cœur de voir que après tant d'années de lutte, puisqu'il y a eu tellement d'années de lutte contre cette construction, elle se construit quand même. Mais faut pas perdre espoir. Il y a plein d'autres prisons à empêcher. Puis voilà, ça peut devenir autre chose encore, quoi. Crise du logement, tout ci, tout ça.
Merci Maya. Si tu peux passer du coup ton micro aussi à Karine.
Bonjour à tous. Voilà, je suis ici avec Christina pour représenter le Tenirs Forum, des jardiniers, qui regroupe en fait à l'origine principalement des potagers en danger dans la région bruxelloise. Et puis qui s'est adjoint donc plusieurs personnes qui, elles, luttent contre la bétonisation d'espaces verts, puisque finalement l'un rejoignait l'autre, convergence. Et donc voilà, et on est donc une équipe, un groupe à géométrie variable et qui accueille régulièrement aussi des personnes qui cherchent un petit peu comment défendre un endroit, qui ne savent pas à qui s'adresser ou comment rebondir. Et alors, on réfléchit ensemble comment on peut faire. Voilà.
Est-ce que tu peux passer... Enfin, je ne sais pas si Christina, du coup, veut représenter...
Non, moi, je suis Christina, mais c'est fait. Donc, Et sinon, j'ai amené une patate de la rue Saint-Josse. Une patate de lutte. Parce que c'est tous les jours une lutte. Ah, oui, c'est l'arbre qui est à côté des arceaux de vélo où vous mettez vos... où Radio Panique met ses vélos. Et c'est une lutte quotidienne, en fait, contre... Ouais, enfin, bon, un peu de tout. Des caca de chiens et tout. Donc, ça sera une très bonne patate bien marinée.
On essaiera de ne pas penser au caricature. On mange la patate. Oui, si tu passes.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, Sébastien, je suis là parce que je représente Occupons le terrain, dans lequel je suis actif à la fois comme activiste militant et à la fois avec une casquette un peu dans le cadre de mon taf rémunéré, on va dire. Donc Occupons le terrain, pour faire très court, c'est un truc qui est né à partir du réseau de soutien à l'agriculture paysanne, qui était le réseau qui organise chaque année les 17 avril les Journées mondiales lutte paysanne, notamment celui qui a eu lieu à Rennes en 2014 et qui a provoqué, je dirais, un basculement. En tout cas, c'est une date importante dans la lutte contre la maxi-prison qui existait avant le 17 avril 2014, mais qui du coup a trouvé un nouvel essor à ce moment-là. Et donc ce réseau a créé, c'est suite à des discussions autour du soutien contre le bétonnage des terres agricoles que Occupons le terrain est né d'une alliance, je dirais, entre un syndicat agricole alternatif, qui se positionne sur l'agriculture paysanne, la FUGEA pour ne pas la citer, deux, trois assos d'éducation permanente, Barricade à Liège, FIAN, Belgique, qui travaille sur les questions de souveraineté alimentaire, et puis Rencontre des continents, où on fait de l'éducation populaire sur ces enjeux écologiques et sociaux. Voilà. Et puis aussi par le fait qu'il y avait de plus en plus de contestations de projets un peu partout. Et voilà. Et donc, Occupons le terrain concrètement, c'est un réseau de collectifs qui ont des visions peut-être pas les mêmes de comment est-ce qu'on doit lutter politiquement, qui sont des collectifs de citoyens, de beaucoup d'habitants, d'habitantes, qui en fait luttent contre des petits ou grands projets inutiles, imposés, nuisibles. Et ça va de une passerelle qui va détruire un ancien pont important pour les habitants du village, jusqu'à la lutte contre Alibaba, jusqu'à la ZAD de Harlon, feu ZAD de Harlon. Donc c'est très différent, ça a des tailles différentes. Voilà, en gros. Et on essaye de. Et c'est aujourd'hui, une quarantaine de collectifs en Wallonie-Bruxelles, plus l'antenne locale de Liège, où ils sont une trentaine de collectifs. Donc ça fait plus ou moins 70-80 collectifs. Quoi. Voilà.
Ok. Donc une lutte qui est assez multiple et sûrement super intéressante pour ça aussi. Nous avons maintenant aussi autour de la table une des réalisatrices du documentaire des patates et des luttes que nous avons écouté il y a peu de temps. Je ne sais pas si tu veux te présenter.
Alors Hélène, je suis effectivement une des co-réalisatrices des patates et des luttes. Documentaire qu'on a écouté juste avant, où on a entendu Seb notamment, on a entendu parler de la ZAD d'Aaron, etc. et de pas mal d'enjeux que vous venez tous de reparcourir, et je suis très contente que tu sois venue avec une patate. ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue avec une patate.
Voilà. On la met au centre pour bien la visualiser.
Voilà. La patate est un symbole très très fort pour nous, donc voilà, on est très contente.
Super, merci. Je ne sais pas trop si on veut continuer à reparler en fait du documentaire avant de se lancer vraiment dans les débats qui ont émané pour nous en écoutant ce documentaire. Sophie, qu'est-ce que tu en penses ?
Peut-être oui, qu'on peut évoquer peut-être le documentaire et voilà, les discussions qu'on a déjà eues il y a une vingtaine de minutes. Si tu veux reprendre un petit peu le contenu de ce documentaire et puis...
Grosse tâche.
Waouh, alors ça c'est un défi, le contenu du documentaire, résumé 50 minutes en une, je ne sais pas bien. Alors en fait c'est un documentaire qui s'articule autour de la patate et comment la patate peut être un objet de lutte contemporaine. Comment on peut lutter en plantant, en arrachant, en vendant des patates aussi pour couvrir les frais de justice des activistes. En résumé, c'est vraiment ça. C'est un documentaire qui se passe uniquement en Belgique. C'est aussi là qu'est né le terme patatiste à la base. Et voilà, on suit différentes luttes à travers la patate. Et justement, Seb disait très, très bien dans ce documentaire, cette manière d'occuper le terrain de différentes manières, mais aussi symboliques et aussi dans les imaginaires. Comment on résiste avec ce tout petit geste de simplement planter une patate et d'occuper le terrain? Comment en fait on fait passer le message de voilà, nous on y croit encore et on laisse pas ce terrain à un projet de bétonisation, de prison ou autre. Voilà, en quelques mots, j'essaye de résumer. C'est très dur.
Non, c'est super, merci. Est-ce que quelqu'un autour de la table voudrait rajouter à ça par rapport à l'écoute qu'on a eue ou que vous avez eue dans le passé ? N'hésitez pas à en prendre un micro quand vous avez envie de prendre la parole, bien sûr. Sinon, je...
Peut-être Mini, je veux dire. Donc je disais, moi, je ne l'ai pas écouté aujourd'hui. Je l'ai écouté, je sais pas, il y a un mois et demi, un truc de style. Et en fait, d'abord, ça faisait du bien. Et en même temps, un peu comme Maya disait, il y a le côté un peu souvenir parce qu'on a perdu ce combat-là contre la maxi-prison. Mais il y en a plein d'autres. Mais donc, ça faisait du bien d'abord de réentendre beaucoup de gens qu'on a pu croiser à ces moments-là. Et alors, je me disais que même, en fait, quand des combats comme Aaron sont, entre guillemets, perdus, en fait, ils ont créé énormément de choses aussi. Et on ne le voit pas spécialement. Mais aussi bien, plein de choses, aussi bien dans le mouvement paysan, dans la lutte paysanne, que dans le mouvement de lutte contre les prisons. Et d'autres encore, quoi. Donc voilà, je veux dire, le fait qu'il y ait eu une ZAD à Arlon et autres, c'est parce qu'il y a des imaginaires qui se créent avant. Et des fois, en fait, on ne voit pas toujours qu'il y a quand même un fil rouge, enfin des fils qui se créent, quoi. Voilà.
Ouais. Des fils rouges qui peuvent être thématiques, mais qui peuvent aussi être liés aux personnes, en fait, qui deviennent engagées dans ces luttes, comme Maya, qui effectivement a habité à la ZAD de Arnhem, si je ne m'abuse, c'est ça, et qui donc continue à vivre ses luttes au quotidien par après, même si elles prennent une autre forme en fait, et que ça peut prendre, enfin peut-être que le point d'emphase de la lutte est peut-être un petit peu différent, mais c'est quelque chose qui est assez fluide, j'imagine, dans la manière de faire. Je ne sais pas si tu veux prendre.
Oui, à fond. Et je pense aussi le rapport à ce qu'on peut faire sur un territoire et comment habiter, c'est un peu ça aussi, c'est comment habiter quelque part rend cette lutte vraiment quotidienne et aussi, ça peut créer des trucs. Et du coup, après la ZAD de Aaron, on a ouvert des lieux pour squatter et continuer de faire exister la lutte anticarcérale dans des quartiers et sur des territoires. Et même si y a beaucoup, on ne va pas planter des patates dans nos planchers, mais quoi que, peut-être tu vas me dire que c'est possible, franchement. en tout cas, il y a un rapport au territoire qui s'est fort créé pour pas mal d'entre nous, je pense.
Ok, un rapport au territoire, mais qui peut être du coup mobile quand même, en fait. Donc malgré le fait d'avoir perdu Aaron, en quelque sorte, en réalité aussi, ça se recrée, ça se démultiplie peut-être.
Ben ouais, mais aussi parce que notre cheval de bataille, je sais pas comment dire, mais bon voilà, c'est... Oh, je sais pas si j'utilise bien cette expression, mais donc c'est lutter... Quoi ?
Cheval de bataille.
C'est bien, merci. c'est la lutte contre les lieux d'enfermement et la justice telle qu'elle est, enfin le système pénal, et donc ça se retrouve en fait partout. Il y a plein de territoires qui sont imprégnés de ça, en fait on est tous un peu imprégnés de ça, et donc dans des quartiers qui vivent fort la répression policière, c'est le premier échelon du système pénal, donc c'est là que ça commence. Donc en fait c'est il y a plein d'endroits où lutter.
Oui, tout à fait. Je sais pas, on voulait avec Sophie parler aussi de... Bon, pour revenir un peu en arrière par rapport au documentaire et revenir après vers la question des luttes après, en fait, qui émanent d'une ZAD, on voulait parler aussi de, disons, des différentes appellations des luttes entre les patatistes et les apatistes aussi les zadistes.
Oui, c'est ça. Hélène, tu as utilisé le terme de patatiste, il est très présent dans ton documentaire, donc... Enfin, voilà, c'est quoi la différence essentielle pourquoi certains s'appellent zadistes, pourquoi d'autres s'appellent patatistes? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a des revendications aussi différentes derrière?
Alors malheureusement, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour répondre à cette question. Je ne sais pas. Après, effectivement, il y a des enjeux. Normalement, le zadiste, il est plutôt sur place par rapport à une ZAD. Le patatiste, il intervient dans une action où il y a des patates. Alors cette action, ça peut être effectivement Wetteren. C'est comme ça qu'est né ce terme ici de patatiste. Donc à Wetteren, où ils ont arraché des plants de patates OGM, parce qu'on se disait, mais c'est qui ces mecs avec leur nez de clown qui courent partout, qui arrachent des patates, qui sont a priori artistes. Voilà, après il y a aussi une grosse référence aux apatistes effectivement dans ce mouvement. Voilà, il y a un petit mélange. Après, moi, je suis une fan des patatistes parce que je trouve que ce moyen d'action est très simple et en même temps très, très noble, en fait, de se battre avec des patates. Mais je ne suis pas du tout une spécialiste des zadistes ou quoi. Mais Seb, peut-être, pourrait vachement mieux répondre à la question, non ?
Non, mais c'est drôle. C'est comme s'il fallait avoir une espèce de sociologie du patatiste ou du zadiste ou de... Et que le zadiste, ça serait forcément quelqu'un avec une cagoule, forcément anarchiste, forcément qui est artiste de la barricade et qui n'aime pas la police, et que le patatiste serait forcément quelqu'un qui a plein de réseaux dans les luttes paysannes. En fait, non, j'ai envie de dire non, parce que justement, c'est un piège de vouloir définir. Parce qu'en fait, tout ça est juste s'entremêle, quoi. Il y a des gens... D'abord, il n'y a pas un mouvement de patatistes, c'est plus un délire, en fait. C'est un délire qui s'est construit sur des luttes qui n'étaient pas forcément connectées. Forcément, il y avait des gens qui étaient connectés à ces luttes-là et qui faisaient les liens. Moi, j'en étais. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été aussi. Enfin, beaucoup, on n'est pas 40, mais quand même. Qui faisaient le lien entre la lutte à Wetteren contre les patates à OGM. Et du coup, c'était un délire. Je disais, bon, continue à alimenter ce truc du patatiste parce que ça fait un clin d'œil aux apatistes. Mais c'est des clins d'œil, en fait, tout le temps, quoi. Après, il y a plein de trucs à dire, je pense, mais on ne va pas le faire là sur... voilà, il suffit de taper zadiste sur Google Images et puis en fait il y a un imaginaire qui a été enfermant et qui a enfermé plein de gens qui luttaient sur des zades sans spécialement se dire zadiste ou pas. Donc enfin voilà, il y a une caricature de ça aussi dont je pense qu'il faut être méfiante parce que voilà.
Ça fait les appellations qu'on prend en fait deviennent aussi des narratifs en fait qu'on s'approprie ou pas. Qui peuvent être excluants ou incluants, dépendant de la personne qui est face à cette narration, je pense. On en avait parlé avec Sophie aussi de l'autonarration en fait, d'une lutte, qui peut être un élément qui soude face à l'extérieur. De trouver un nom qui fait un clin d'œil patatiste ou les potagistes, effectivement. N'hésitez pas à prendre le dernier micro hein, pour prendre la parole, mais... Mais oui, c'est vraiment ce côté un peu de trouver une manière de se narrer et de narrer la lutte pour ensuite en être plus fort et pouvoir avoir plus de personnes qui rentrent dedans. Mais enfin, je sais pas, c'est un peu la question qu'on se posait avec Sophie aussi par rapport à la convergence des luttes et les difficultés que ça pouvait amener en fait cette narration.
Oui, c'est ça. Comment ça se passe en fait concrètement quand vous êtes plusieurs collectifs sur un espace où ça peut être difficile de cohabiter comme dit dans le documentaire d'Hélène. C'est voilà. Est-ce qu'il y a des instances où on discute et comment on se crée en fait une image à la fois en interne, à la fois à l'extérieur. Est-ce qu'on y arrive et enfin comment vous cohabitez entre vous en fait?
Moi, j'ai jamais habité sur une ZAD, donc je pense que c'est plus toi qui nous réponds.
Oui, au niveau de l'habitation, c'est clair que... Mais aussi, à Rennes, sur toutes les ZAD, il y a vraiment des gens qui viennent pour des raisons différentes. Et là, à Rennes, c'était fort, quoi. Il y avait vraiment le côté écologique hyper, hyper puissant, paysan hyper puissant. Il y avait le côté anard et aussi le côté anticarcéral. Et puis, enfin, en fait, il y avait aussi les habitants qui disaient non, mais une prison, oui, mais pas ici. Et puis, il y en a plein qui, finalement, au cours du truc, sont devenus vachement anticarcéraux. En fait, c'était pas mal, ça. Vraiment, je me souviens du couple de petits vieux qui m'a dit maintenant, on teste les prisons et tout. C'est cool. Mais ouais, mais c'est clair que cohabiter, c'est pas évident. Et je pense que c'est un des trucs que vivre sur la ZAD m'a le plus appris. C'était de gérer des problèmes, de régler des problèmes. Essayer, quoi. Et ça n'a pas souvent marché. mais en fait, c'est aussi faire avec des difficultés que parfois on veut plus voir mais qui en tout cas existent et parce que là c'est dit un peu dans le documentaire, mais oui, en effet, il y a des gens qui viennent là pour vivre parce qu'en fait c'est gratuit et que c'est important d'avoir des endroits pour vivre pour des personnes qui savent pas se payer de logement. Et donc il y avait des personnes parfois violentes, qui consommaient des trucs et tout ça, et des substances illicites, je vais dire. Et, Et ouais, bah, ça fait que, qu'en fait, tu es confronté à de la violence, tu luttes contre les prisons, tu vois bien que la violence, elle existe. Et bah, comment tu fais sans prison? Comment... Ouais, et donc, comment tu cohabites avec ça? Comment tu fais avec, en fait? Et ça, c'était cool. Mais c'est clair que c'est pas évident. Enfin, ça, c'est crevant, quoi. Mais le monde est crevant, et tant mieux. Non. Je sais pas si vous voulez dire un truc.
Vous étiez aussi présent sur ce territoire.
Oui, non, le vivre ensemble, c'est pas toujours évident. En plus, moi, j'avais pas l'habitude de vivre avec des gens qui voient que tu existes. Donc, c'était déjà hyper stressant. Moi, je vis seule, donc voilà. Je vis dans le plancher, comme tu dis. Non, je ne sais pas très bien quoi dire. C'est pas évident. Oui, puis il y a des gens qui viennent, qui respectent le lieu, mais chacun vit ce lieu différemment, vient avec pour d'autres raisons, mais vit le lieu aussi très différemment. C'est un lieu hyper poétique, quoi. C'est tu es connecté à la terre, tu vas aux toilettes sèches et tu n'arrives pas à retourner vers le feu parce que tu vois la lune et que t'es là et que t'es la lune. Alors je me suis couchée par terre, vraiment connectée au sol, je pouvais plus bouger. Mais bon, pas tout le monde vit ce lieu de la même façon. Puis il y a des gens qui viennent, qui laissent des déchets, qui font pas la vaisselle, des choses comme ça. Donc, c'est pas facile de vivre ce lieu comme on a envie de le vivre. Et c'est intéressant, oui, mais c'est quand même dur. On se fait quand même un peu écraser aussi. Donc, mais voilà, c'était peut-être pas la question.
Mais c'était très intéressant quand même. Bon,
voilà.
Ouais, peut-être mini-rajout. C'est vrai que j'ai l'impression que le forum est plus ou moins né dans le sillage de la première occupation à Arun. Je ne me rappelle plus trop, mais de mémoire. Et sur l'histoire de comment ça fonctionne, de nouveau, il n'y a pas de réponse, en fait. Par exemple, si, y a des luttes de territoire emblématiques, genre Notre-Dame-des-Landes, où là, en fait, il y a plein de trucs qui sont joués, mais de fou en termes d'alliance, de convergence, mais aussi en termes de juste pas convergence du tout, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord, point barre, quoi. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je pense que c'est important de pas aller idéaliser ces trucs-là. Il y a des gens que je connais qui veulent plus entendre parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quoi. C'est juste, c'est trop douloureux pour eux, ce qu'ils y ont vécu à titre personnel, et douloureux pas par rapport à l'État, aux flics ou à Vinci, non, douloureux par rapport à leurs compagnons de lutte à ce moment-là, quoi. Et je pense que ça a été aussi le cas un petit peu pour certaines personnes, par exemple sur Arun. Et en fait, c'est juste lié au fait que c'est que une lieu territoire, ben, elle n'existe que parce que les gens posent le pied sur le sol qui est menacé d'être détruit pour des raisons XY, plus ou moins débiles. Et du coup, forcément, les gens, ils arrivent, comme vous venez de le dire, pour des raisons diverses, et puis ça clash, quoi. Et en fait, il y a des clashs qui ne sont pas du tout des convergences, quoi, qui sont des divergences, et c'est très bien aussi, mais parfois, c'est douloureux pour certaines personnes. Et voilà, et donc, tu as des luttes où tu as des assos derrière. Donc, le 17 avril 2014, c'était une série d'assos qui ont pignon sur rue, entre guillemets, qui avaient organisé le truc. Et on l'avait fait de manière consciente en se disant... Trop bien s'il y a des gens qui lancent une ZAD après, quoi. Et voilà.
Oui, prends le...
Et aussi, encore un mini rajout. Parfois, il n'y a pas besoin de converger sur pourquoi on est d'accord, mais on s'allie contre un truc et il y a une efficacité politique qui émane de ça aussi. J'ai l'impression... parfois, ça rassemble et c'est assez. Et qu'après, pour du plus long terme, et il faut aussi des luttes à vraiment long terme et où les gens peuvent rester et continuer de mettre de l'énergie dans la lutte. Parce que c'est vrai que parfois, il y a plein de gens qui sont épuisés et qui partent de la lutte. Et donc, il faut aussi trouver des manières de s'organiser qui font aussi du bien et qui permettent aussi aux gens de continuer à vivre ça. Moi, j'ai l'impression que le fait de s'organiser de manière le plus horizontale possible, ça aide à ça. Enfin, de se sentir impliqué, parce que du coup, concrètement, parce que tu demandais des trucs concrets tantôt. Et concrètement, comment on s'organise, on fait des réus, quoi. Tu passes des heures à parler et t'essayes que tout le monde parle autant et que tout le monde s'écoute et qu'on comprenne bien, et voilà, quoi.
Et je me demandais aussi, en fait, donc on va parler ensuite avec la friche Josepha qu'on aura au téléphone, qui est une friche sur laquelle il n'y a pas d'habitation. Donc ma question, c'est qu'est-ce que ça change, en fait, de faire ce choix d'habiter plutôt que de ne pas habiter ? Parce que Sébastien, tu nous as dit aussi que toi, tu étais dans des luttes qui n'étaient pas des luttes où on habite, finalement. Donc qu'est-ce que ça change, en fait, de faire ce choix d'habiter ? Est-ce que c'est vraiment uniquement parce que c'est un terrain à défendre, ou est-ce que c'est quelque chose de différent ?
Okay. Non, moi, ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'en fait, moi, je n'avais pas habité pour des raisons personnelles, de vie pratique, familiale et autres. Moi, je n'ai jamais habité sur une lutte de territoire. Et c'est important d'habiter, quoi. C'est vraiment, en fait, j'ai mes affaires là, quoi. Et j'y reste, j'ai mes trucs à moi, quoi. Et je pense que c'est très différent, du coup, le rapport qu'on a à un endroit. Et dans les territoires, tu as des gens qui habitent depuis toujours, qui veulent juste pas de ça chez eux et qui, en fait, à la fin, veulent pas de ça chez eux ni ailleurs. Mais ça prend du temps. Et puis, tu as des gens qui viennent habiter un petit peu, 2 jours, 3 jours, le temps d'une lutte, d'une mobilisation, de... voilà, quand il y a de la répression éventuellement dans certains endroits. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas... Par contre, le fait d'habiter, je crois que c'est hyper important. Si personne n'habite une lutte de territoire, en fait, il n'y a pas de lutte de territoire. C'est pas... j'en connais pas une. Et je serais même curieux si je prenais la liste des... je sais pas, 50-60 luttes dans Occupons le terrain. Je pense pas qu'il y en a une seule où il y a personne qui habite le lieu, au moins d'une certaine manière. Ça veut dire au moins quelqu'un qui se balade chaque semaine dans un endroit, dans une forêt, qui a pas juste envie de voir cette forêt détruite. Ou voilà, voilà. Et je pense, et un lien que je voulais faire, juste de le dire, mais après peut-être on en parlera après, c'est que les luttes de territoire, on le dit pas assez, mais c'est aussi les luttes urbaines, quoi. C'est en ville. C'est pas que pour c'est pas que contre la destruction du vivant non humain, des écosystèmes. C'est aussi contre la destruction des quartiers. Et donc les squats sont des luttes de territoire, quoi. C'est vraiment important de le dire, parce que sinon on idéalise en mode ouais c'est la campagne, machin, on défend des espaces verts. Non, mais on défend aussi des quartiers, quoi. Et là-dessus, je trouve que le taf de la claque est chouette à discuter. Mais du coup, ça peut peut-être faire le lien sur les potagers. Et...
C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude, enfin, parmi nous, il n'y a personne qui a participé à une ZAD. En tous les cas, pas. Oui, Christina, tu viens d'expliquer, mais, voilà. Mais pas de façon intense. On soutient, on a soutenu toujours, mais pas de façon directe. Par contre, c'est très intéressant ce que tu disais, Sébastien, dans la mesure où habiter. Peut-être, on peut comprendre le mot habiter de plein de façons. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où qu'on soutient ou pour lesquels on lutte, où on va chaque semaine. Il y a toujours quelqu'un qui y va et d'autres où on va tous les jours. Ce qui veut dire qu'on est quand même très, 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 très informé sur tout ce qui se passe. Donc c'est aussi tout un travail d'observation et de signalement, de rapport, d'ameuté aussi, quand on voit quelque chose, et aussi en allant sur le lieu, d'échanger avec d'autres gens qui circulent sur le lieu, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais d'attirer leur attention sur toutes les problématiques qu'on rencontre. Et à ce moment-là, en général, on fait des adeptes, on éveille vraiment des gens en discutant et en utilisant beaucoup de salive. Mais ça fonctionne très, très bien. Et ça, c'est vrai que si tu ne vas pas sur le lieu, ça ne se passe pas. Tu peux écrire des articles, etc. Mais voilà. Tandis que quand... Oui, c'est clair. Mais c'est une grosse, grosse différence.
Oui, donc habiter le terrain, mais dans le sens large du terme, donc pas devoir oui. y vivre ou rester la nuit, parce que peut-être que c'est la manière classique d'imaginer d'habiter un terrain, mais y être en fait de manière corporelle, d'avoir vraiment ce sentiment viscéral d'attachement à un lieu parce qu'on le visite, parce qu'on l'habite d'une certaine manière. C'est super intéressant. Je pense qu'on a la friche Josepha en ligne. C'est Pierre Rickmans qui ne pouvait pas être avec nous en présentiel, mais qui est, je pense, là. Pierre, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends.
Bonsoir. Ah, super. Nous, on t'entend aussi. C'est très, très drôle. Je voulais faire un peu ce lien avec, avec habiter un territoire, parce que la Friche Josapha est un territoire donc, en région Bruxelles-Capitale qui est un territoire en friche et qui a une biodiversité étonnante parce qu'elle a été donc, laissée à l'abandon en quelque sorte pendant des dizaines d'années. Et donc, à ce que j'ai compris de votre lutte, donc de Sauvons la Friche Josapha, l'enjeu, c'est vraiment essayer en fait, de garder cet espace avec un minimum d'intervention humaine. Et donc, quel est le rôle en fait, de l'humain et de pouvoir habiter en fait, ce territoire dans ce cadre-ci ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos réflexions en fait, dans le cadre de Sauvons la Friche Josapha ?
Oui, on a développé, je dirais, plutôt plusieurs projets alternatifs au projet de bétonisation de cet espace semi-naturel. Et donc, notre projet, c'est d'en faire, donc c'est 14 hectares sur les 34 hectares du projet, du plan d'aménagement directeur. Donc, il y a 14 hectares sur les 34 qui sont effectivement un espace semi-naturel extrêmement riche. Et notre projet, c'est d'en faire une réserve naturelle, non pas pour la fermer complètement au public comme elle l'a été pendant des années, mais au contraire pour pouvoir en faire un espace de rencontre entre la biodiversité et l'humain, et surtout l'humain qui habite en ville et qui n'a plus aucune idée de ce que c'est la biodiversité ni de à quoi ça sert. Et donc un projet éducatif, en fait, où il y aurait effectivement la possibilité pour les personnes et les écoles, on pense aussi aux écoles, d'aller sur la friche et de rencontrer cette biodiversité avec des spécialistes qui pourraient en expliquer la richesse et toutes les subtilités. Et évidemment, ça entraîne certaines restrictions, justement pour ne pas détruire ce qu'on découvre. Mais ce n'est pas du tout comme certains l'ont prétendu, qu'on veut fermer complètement l'espace. Donc il y a vraiment l'idée que, oui, les gens qui habitent dans la région de Bruxelles doivent pouvoir rencontrer la nature comme elle est vraiment. Et ça nous paraît, là, on a un espace qui est idéalement fait pour ça, pour rencontrer une biodiversité très large et pour pouvoir justement jouer un rôle éducatif et de sensibilisation. C'est notre manière, je dirais, d'habiter, enfin en tout cas de rencontrer cet espace sans le détruire. Là est tout l'enjeu, en fait.
Oui, c'est bien sûr pertinent, je pense, mais ça pose un peu la question, est-ce que le rôle de la faune sauvage en ville est uniquement un rôle pédagogique ? Est-ce que c'est la seule manière, en fait, de laquelle on puisse interagir, en fait, avec le non-humain, qui n'est pas un non-humain qu'on ait choisi, en fait, qui est un non-humain qui est là, par le pur hasard des choses, parfois. Est-ce que, autour de la table, ici, vous avez des idées ou des envies pour pousser un petit peu cette question en fait du rôle de la faune sauvage en ville. Je regarde un peu le forum des potagistes ou Sébastien. Je ne sais pas si vous avez des interventions directement. Ou Pierre, oui, si tu veux répondre. Pardon.
Donc c'est d'ailleurs un des éléments qu'on utilise pendant nos visites, c'est de dire. Il y a maintenant des études très sérieuses qui ont été menées et qui montrent que les gens sont plus heureux dans un environnement où, par exemple, ils ont l'occasion de rencontrer plus d'espèces d'oiseaux différentes. Alors, vous allez me dire, mais la plupart des gens ne savent pas reconnaître les oiseaux les uns des autres. Et pourtant, ben voilà, il y a une étude très sérieuse qui montre que si vous habitez dans un environnement où vous avez plus de chances de rencontrer des oiseaux différents, eh bien, vous êtes plus heureux. On a fait aussi d'autres études semblables sur les espaces verts. Et là, non seulement il y a la question d'être heureux ou pas, mais il y a la question aussi de la santé. Il y a des études très sérieuses qui montrent que vous avez plus de chances de faire un infarctus au fur et à mesure que la distance avec un espace vert augmente. Donc, c'est pas du tout, je dirais simplement, les petites fleurs et les petits oiseaux. Ce sont des éléments très... très sérieux, je dirais, de la santé et du bonheur. C'est pas du tout négligeable, je pense, certainement dans des régions très urbanisées et qui s'urbanisent malheureusement de plus en plus comme la région bruxelloise. Donc il y a des impératifs, enfin il y a des questions de santé et de santé mentale. Pour moi, le plus direct en tout cas, à quoi sert la biodiversité, et certainement en ville, ben, c'est des questions de santé et de santé mentale. C'est absolument essentiel.
Mais c'est un peu triste quand même de penser qu'il faut absolument mettre en place des dispositifs de lutte pour préserver la biodiversité en ville. Désolée.
C'est bien ça le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que les personnes qui sont responsables de ces choses-là le prennent vraiment au sérieux, le développent. Il y a des tas d'endroits à Bruxelles où en fait il faudrait maintenant songer à débétonner et à remettre des espaces verts. Il y a des zones qui sont vraiment complètement abandonnées par rapport à ça, même si de temps en temps il y a un petit parc ou un petit couloir, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais par exemple la nature qui est une nature trop jardinée, trop parquisée, il n'y a plus d'espace de nature, on ne va pas dire sauvage parce que ça pourrait faire peur, mais de nature qu'on laisse vivre. Et c'est vraiment un des plus gros problèmes maintenant. Il y a aussi des endroits qui sont prévus pour ça. Et puis petit à petit, soudain, on les convertit en autre chose. Et du coup, là où on avait quelque chose, on ne l'a plus. Et alors on vous dit, ah, mais là, on va vous remettre quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de plaque qui glisse tout le temps. Mais au bout du compte, pour l'instant, on est perdant.
Oui, nous et le non-humain qui essaye, ouais, le vivant au sens large du terme. Je pense, Christina, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, Karine l'a dit, c'est la nature, parce que vous demandez quel est le rôle ou quoi. Mais en fait, pour moi, elle doit juste pouvoir être. On n'a pas, si on vit dedans ou à côté ou qu'on en fait partie, mais elle doit juste pouvoir être là. Elle n'a rien, elle ne nous doit rien, en fait. Enfin, voilà, pour moi. Elle ne doit même pas... des veaux ou de la vache ou de la... Elle ne doit même pas ça. Hein.
Non, elle ne doit pas avoir
ou des cochons,
un objectif.
Ou des...
Ouais, voilà. Pour nous, en fait, elle devrait
manger
juste
des patates.
Sébastien, tu voulais...
Bien dire un truc là-dessus. J'ai noté une phrase sur laquelle je suis retombé il y a 2 jours. Quoi. Donc l'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage. ben, moi, elle me parle... Parce qu'en fait, et c'est vraiment d'actualité, quoi, actualité dans le monde Covid et confinement et compagnie. On a bien vu que le premier truc que les gens faisaient après le confinement, c'était de chercher de l'espace vert, quoi. Et qu'en fait, les espaces verts, il n'y en a pas dans les quartiers populaires, quoi. C'est pas pour rien, mais il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas à plein d'endroits. Et encore, à Bruxelles, on n'est pas les moins lotis par rapport à d'autres villes. Je parle pas de Paris ou de. Et en fait, je dis ça aussi parce qu'il y a. Je vous invite à aller sur le site de Reporters, ils ont vraiment fait un dossier là-dessus, quoi, pour vraiment essayer de voir ce qui s'est joué dans le confinement sur les questions écologiques dans les quartiers populaires. Et du coup, ça montre qu'en fait, c'est un privilège d'avoir accès à de l'espace vert aujourd'hui, quoi. C'est un privilège de classe, simplement, quoi. De classe et de race, sans doute aussi. J'ai animé il y a 2 jours un débat avec Fatima Ouassa qui bosse beaucoup en France dans les quartiers populaires sur les questions d'écologie. Elle reliait ça aussi à la question de l'air. En fait, besoin d'air, mais besoin d'air, c'est besoin d'un air sain, donc aussi avec la biodiversité des arbres, mais aussi besoin d'air sur les flics, lâchez-nous, quoi. Donc c'est dans les deux sens, quoi. Et ça, c'est un des points. L'autre truc, c'est... et ça se joue à Bruxelles en ce moment, par exemple sur un endroit à Boisfort où on pense qu'il y a pas de où il y a que on pense qu'il y a que des allez, des classes moyennes blanches avec un certain. Bon, en fait, il y a aussi plein de gens qui galèrent à Boisfort. Je parle du champ des Cailles. Aujourd'hui, là où je parle, en fait, au champ des Cailles, maintenant, on leur a dit OK. En fait, on va peut-être pouvoir préserver. Enfin, l'État leur a dit, le gouvernement, on va peut-être pouvoir préserver une partie du truc, mais il faut que 50% des personnes qui viennent sur le champ, qui bénéficient des légumes, en fait, soit issus des logements sociaux, enfin, soit au CPS, machin, quoi. Et en fait, quand ils disent ça, en fait, ils enferment aussi les personnes qui produisent, donc les maraîchers, maraîchères qui produisent, à leur obliger un espèce, comme si, en fait, le social devenait un espèce de défi. Ouais. Alors qu'en fait, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de logements vides à Bruxelles, qu'il y a plein de bureaux, qu'on pourrait faire plein d'autres choses que de ces endroits-là, et qu'en fait, Voilà, et c'est souvent en fait qu'on place le débat à un endroit qui est pas assez systémique, quoi, qui voit pas les choses de manière globale, quoi. Et donc oui, bien sûr, il faut du logement pour tout le monde, mais bien sûr, il y a plein de logements vides à Bruxelles. Et donc c'est pas antisocial de dire, c'est pas antipopulaire de dire, il faut préserver l'espace vert, quoi. Et voilà, et en fait il y a plein de gens dans les quartiers centraux de Bruxelles qui n'ont jamais mis un pied dans la forêt de Soignes, quoi. Alors qu'en fait, forêt de Soignes, pendant le confinement, il y avait plein de gens, quoi. Et en fait, c'est des histoires géographiques et donc de territoire.
Tout à fait. Pierre, tu voulais rebondir, ouais. Je pense.
Oui, je ne sais pas qui d'entre vous a dit que c'était triste, qu'il fallait se battre pour sauver ces espaces. Moi, j'irais plus loin. Je pense que c'est vraiment inquiétant. C'est très inquiétant. On est en pleine pandémie. Tous les scientifiques nous disent que la crise du climat et la crise de la biodiversité est une véritable catastrophe et que ce sont les deux grandes priorités pour les 30 ou 50 prochaines années. Et pendant ce temps-là, les politiques, c'est plutôt « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et je voudrais rappeler que quand on a créé le parc Josaphat, donc qui est à côté de la friche et qui profite à énormément de Scarbécois qui n'ont pas de jardin, quand on a créé ce parc, ce sont les autorités publiques qui ont, je dirais, pris la main face à des propriétaires privés qui ne voulaient pas, qui voulaient abattre les arbres qu'il y avait dans les différentes parcelles qui composaient le parc Josaphat, qui voulaient vendre le terrain simplement pour gagner de l'argent. 100 ans plus tard, ce sont non plus les autorités publiques qui défendent le bien commun, mais ce sont en fait des particuliers, des bénévoles qui doivent s'opposer au pouvoir public pour défendre le bien commun et l'avenir finalement de... des générations futures. Et ça, moi, je trouve très inquiétant.
Maya, tu voulais répondre, je pense, ou rebondir sur un autre point ?
Oui, mais je pense que c'était par rapport à ce que tu disais, Seb, là tout de suite. Genre là, j'ai passé le confinement à Kureghem, donc là, on a notre foyer de lutte. Et il y a quasi zéro parc, enfin, il y a un mini-parc... qui est pas dingue, mais quand même, c'est un parc. Au moins, tu peux poser ton cul sur de l'herbe, quoi. Mais, et là, ils veulent construire des tours de logements chics qui vont faire de l'ombre à ce parc, quoi. Donc, en fait, il y a plein de manières où, en fait, on détruit l'usage d'un espace et, en fait, il n'y aura plus besoin de ce parc à partir du moment où il n'y aura que de l'ombre dedans et que personne ne voudra s'y poser, quoi. En fait, on permet aussi de... plus tard le détruire plus facilement parce que en effet c'est quand tu vas te poser à un endroit que tu t'attaches, quoi. Et j'ai toujours vécu en ville et pure bruxelloise, et quand j'ai vécu un petit peu à Arron, ça m'a fait trop bizarre de juste mais c'est trop cool, quoi, genre ouais, c'est vraiment trop bien, c'est hyper attachant. Et du coup je me disais, mais voilà les gens qui vivent, ouais, c'est... non mais... J'avais des petits chants d'oiseaux et tout. Alors que bon, c'est pas non plus la campagne ou des gens qui vivent à la mer. J'imagine l'attachement qu'ils doivent avoir, ça doit être malade, quoi. En tout cas, c'était cool de découvrir ça. Voilà.
Oui, c'est assez essentiel, je pense, à la vie humaine, d'être proche du vivant. Et c'est peut-être une des grandes revendications qu'on devrait faire, c'est de pouvoir être plus proche du vivant en général. Je ne sais pas, Sophie, où on en est dans le temps. Je n'ai pas de vue sur l'heure en ce moment.
Il nous reste un quart d'heure, donc on a plein de temps.
Ah, c'est super. Je vous rappelle pour les auditeurs et auditrices qui sont en ligne qu'on est sur la 105.4 FM sur Radio Panique en studio volant du Baume. Pierre, je ne sais pas si tu voulais peut-être rajouter une dernière intervention.
Oui, je pense que une série de gens qui habitent justement, comme on a dit, dans des quartiers où il n'y a pas d'espace vert ou très peu, ne peuvent même pas finalement, au bout d'un certain moment, se rendre compte de ce qui leur manque. Et nous sommes tous un petit peu... dans ce cas-là, je dirais tous plus ou moins. Moi, j'habite aussi dans un quartier qui a très peu de verre, donc près de la place X. Et donc, effectivement, la friche Josaphat, c'est un endroit pour moi où on peut retrouver un petit peu ce lien. C'est un espace ouvert, c'est pas une forêt, donc c'est encore une nature différente. on peut retrouver un certain silence, une certaine forme de silence, une certaine forme de vide. Un peu, il y a un petit peu une impression différente, je dirais, devant cet espace. Et oui, je n'exagère pas quand je dis c'est une forme de méditation d'aller se promener là et de goûter ce contact direct avec une nature dont on voit bien qu'elle est sauvage. On voit bien que ces plantes sont arrivées toutes seules, que voilà, les abeilles qui sont là sont des abeilles sauvages, les papillons, les libellules. Tout d'un coup, on est quelque part un petit peu reconnecté, j'allais dire déconnecté avec la ville, mais on est reconnecté en fait avec ce dont on fait partie, la nature, et donc qu'on ne devrait pas, ce lien qu'on ne devrait jamais perdre et qu'on est en train de perdre malheureusement. Et voilà, donc ça je trouve très important et d'autant plus important qu'on peut perdre ce lien, on peut oublier, on peut, si à force de vivre dans des espaces urbanisés, on oublie ce que c'est et on oublie le bien que ça nous fait. Et donc on se retrouve avec des problèmes de santé, des problèmes de violence, etc. On ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, ça vient quand même aussi en partie qu'on n'a plus ces espaces et ces moyens de se reconnecter avec une part essentielle de nous-mêmes, en fait.
Merci, Pierre. Sébastien, tu voulais...
Ouais, je voulais juste ajouter un truc sur qui s'est vécu à Aaron, en tout cas, moi, quand je m'y impliquais dans genre 2014, 2015, 2016, par là. Mais je pense qu'il y a aussi une question pour... pas pour toi, mais pour ce qui se passe à Josaphat, c'est en fait qui est très lié, je pense, au paradigme capitaliste dans lequel on est, c'est la peur du vide. En fait, il faut combler. Là, il y a eu un trou. Non, il faut mettre un truc, quoi. Il faut à tout prix, faut remplir, quoi. Et qu'à un moment donné, on nous a dit, je me rappelle, en 2015, par là, c'était, mais vous avez un contre-projet, hein, les opposants, vous n'avez pas un autre projet? On va faire une prison avec un peu de jardin, ça va être chouette, et puis on va faire une prison écolo, hein, puis comme ça, les prisonniers pourront cultiver, et puis en même temps, manger leur propre circuit court. Alors, je caricature, là, hein. C'est pas ça qu'on nous a dit, mot pour mot. Mais quand même, il y a ce truc de se dire, on veut remplir. Là où il y a des trous, il faut remplir. Et je pense que c'est un des traits du système qui nous domine, tous et toutes, même si on essaye d'en sortir. Et Josaphat, c'est pareil, quoi. Enfin, pour un pouvoir public qui doit gérer l'agent du territoire, avoir un trou où il n'y a rien. Alors oui, alors ils vont dire non, mais c'est pour du logement, il faut des actifs. Mais voilà, le quartier Schuman, moi je rêve que le quartier Schuman devienne un trou où il n'y a plus rien, où il n'y a plus les lobbyistes, où il n'y a plus les bureaux qui polluent la vie de plein de millions de gens. Et voilà quoi. Et voilà, je voulais juste, voilà, c'était ce truc du trou, quoi, la peur du vide. Et du coup, que chaque fois, parce que dans Occupons le terrain, on a fait un guide, un manuel de résistance aux projets inutiles et imposés. On a un chapitre qui s'appelle Le contre-projet. Et en fait, c'est parce que dans plein d'endroits, c'est aussi utile d'avoir des contre-projets, pour des raisons stratégiques aussi, et parce que parfois, vraiment, c'est utile d'aménager un parc différemment que, voilà, je te l'ai juste apprisé, donc c'est pas qu'il faut être chaque fois contre les contre-projets, pas du tout, c'est utile, mais des fois, c'est juste, mais en fait, laisser le truc vide, et c'est bon, quoi.
C'est un peu en urbanisme, je pense, la peur de la dent creuse. Qui apporte beaucoup de... En fait, une dent creuse, donc c'est une maison qui n'a jamais été construite, en fait, en front de rue, et qui, du coup, vraiment donne peur aux urbanistes. Et ils sont toujours genre, non, il faut remplir les dents creuses, parce qu'en fait, sinon, t'as des espaces morts. Alors qu'en fait, ils ne sont pas morts, ils sont pleins de potentiel pour d'autres choses, peut-être. Mais la dent creuse, c'est vraiment, en urbanisme, la chose. Pierre, je t'entends avoir envie de rebondir.
Ben oui, je trouve ça vraiment très, 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 très juste, la peur du vide. On a parlé avec des architectes, notamment avec le maître architecte, etc. Et pour eux, c'était très clairement, pour investir l'endroit, il fallait le construire. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse avoir une relation avec cet endroit et que cet endroit ait une valeur sans qu'il soit construit. Or, nous, ce que nous disons, justement, c'est que cet endroit, tant qu'il n'est pas construit, il a une énorme valeur. Et c'est un peu dommage que ça ne puisse pas être compris. Je pense qu'il faut que les gens découvrent à ce moment-là cet espace par qui il est habité déjà, et qu'ils découvrent à ce moment-là la richesse pour pouvoir se dire ok, c'est pas que du rien, hein, ce n'est pas du vide. Il y a véritablement quelque chose, mais quelque chose de complètement différent de la ville et l'intérêt que ça. Mais effectivement. C'est quelque chose d'un peu irrationnel, c'est la peur du vide. Je trouve ça vraiment très juste comme réflexion. Maintenant, une fois qu'on s'en est rendu compte que c'est cette peur du vide qui nous pousse tous, hein, on est tous un petit peu dans ce système de dire, bon, on va construire, on va aménager, on va faire une route, on va... Une fois qu'on a compris ça, on peut peut-être mieux résister à ça dans les endroits où ça vaut la peine de résister à ça et de laisser justement la nature reprendre ses droits et habiter les lieux.
D'où l'importance de pousser, enfin de faire tout ce qu'on peut pour arriver à un stop béton à Bruxelles, qui serait quand même enfin le stop, le pause qu'il faut faire pour qu'on puisse justement réfléchir à tout ce que tu viens de dire, au fait pourquoi est-ce qu'on doit tout remplir, pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre à tous ces dictats immobiliers qui nous amènent de tas de bâtiments et de logements qui ne correspondent pas à ce dont on a besoin. Et il n'y a plus que cette solution-là, c'est d'arrêter, de se poser et de commencer à réfléchir convenablement. Tant que ça n'existera pas, on va avoir bien du mal à arrêter quoi que ce soit.
Oui, je pense. Enfin, j'ai l'impression que la politique aussi urbanistique et de construction n'est pas juste une politique purement. Enfin, elle est purement capitaliste, mais elle est aussi enrobée d'une couche sociale où c'est construire, mais pour du social. C'est construire avec l'excuse en fait de combler un manque qui est socialement défini. On l'a vu avec le plan 1000 logements, je pense à Nelovo-Hembeek et à Arnhem aussi, où il y a beaucoup beaucoup d'espaces verts qui ont été bétonisés pour du logement social qui peut-être ne correspondait pas. On n'a même pas eu l'occasion de bien évaluer ça en fait avant de faire cette construction. Donc c'est peut-être découpler aussi la construction du besoin social, mais qui serait en fait une remise en cause de cet impératif de combler les trous pour répondre à un besoin.
C'est un point de vue personnel, mais je pense aussi que c'est politiquement, pour un pouvoir public, politique, en fait, c'est plus facile de faire du social en construisant du logement social que faire du social en combattant les riches et en disant, bah, en fait, qui occupe les territoires, où sont les espaces verts En fait, c'est plus facile de dire bon, on a autant de millions d'euros pour du logement social, bon, on va le faire là où il n'y en a pas, et donc on va prendre les endroits. Par contre, aller combattre les riches, aller combattre le quartier européen, les lobbies, les trucs, la manière dont a façonné le quartier européen, l'association Parc Léopold qui, depuis 40 ans, lutte contre ce qui s'est passé à Bruxelles. Mais c'est plus compliqué, je veux dire, c'est pas politiquement vendeur, enfin, tu te mets tout le monde à dos, donc en fait, tu essaies de faire un truc un peu à moitié. Et c'est pour ça que je parle du champ des cailles, c'est parce que c'est exactement là que ça se joue, c'est intéressant. Ça fait d'ailleurs chier notamment les pouvoirs publics qui financent le Festival Nourrir Bruxelles. Donc on est très content qu'on puisse parler de ça aussi, parce que ça coince, quoi.
Oui, et oser refuser des permis, c'est aussi quelque chose qu'ils ne font pas. Ou oser s'attaquer aux critères de logement, aux normes de logement, aux prix des loyers... Donc voilà, pour les permis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire et on les voit toujours approuvés en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont refusés dans les constructions.
Cette voilà. Semaine, il y en avait un.
Ah, ok, donc peut-être que ça commence.
Oui. Il y en a un qui a été refusé cette semaine et qui en fait avait derrière lui quand même une grosse, grosse lutte qui est venue de partout. C'est un endroit moins grand que la Friche. Hein. Mais je veux dire, c'est intéressant parce que ça montre aussi que maintenant, les gens commencent à s'impliquer plus, je pense, dès qu'il y a moyen. Et voilà.
Je pense que Pierre voulait... Pardon, vas-y.
Ah oui. Je voulais rajouter un des prétextes qu'on nous donne pour bétonner la Friche Josapha, c'est que, soi-disant, l'urbanisation croissante de Bruxelles préserverait la région flamande et la région wallonne de l'étalement urbain. Ce qui est évidemment totalement faux, parce que les régions ont des politiques différentes et indépendantes, donc l'un ne dépend pas de l'autre. Mais par contre, ce prétexte permet à la région bruxelloise, elle, de continuer en fait à faire de l'étalement urbain, parce que c'est ce qu'on fait. Sous prétexte de densifier, en fait, on bétonne, on ne densifie pas. Densifier, ce serait mettre plus d'habitats ou plus de structures sur la même surface qui est déjà artificialisée, justement pour préserver pour ne pas faire de l'étalement urbain. Et donc la région bruxelloise réussit à continuer à faire de l'étalement urbain sous prétexte que justement qu'elle va prévenir l'étalement urbain. Et pour une région qui est aussi petite et aussi urbanisée, continuer à faire de l'étalement urbain, c'est vraiment suicidaire, en fait. Donc, c'est vraiment une politique complètement absurde et sous des prétextes fallacieux. Donc là enfin, il y a vraiment un langage trompeur, en fait. On est en train de sacrifier, soi-disant, la région bruxelloise pour sauver les deux autres, mais ça n'a aucune raison d'être. Et en faisant ça, on se tire une balle dans le pied parce qu'on enlève les derniers espaces possibles de résilience de la région bruxelloise face à la crise du climat et de la biodiversité qui sont les majeurs qui nous attendent. Donc, enfin, je veux dire, et qui nous attendent pas, elles sont là, elles sont déjà là maintenant, on le voit. Donc c'est incompréhensible que les politiques ne soient pas plus réactifs par rapport à ça et ne réagissent pas dans l'autre sens, alors que les citoyens, eux, le font.
Merci Pierre. Je vois qu'on est à court de temps, je pense. On va devoir te laisser ici et finir ici au Baume. Mais merci beaucoup pour ton intervention, en tout cas. Ce fut un plaisir.
Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Je crois que c'était le mot de la fin. Donc je vais remercier tous les intervenants d'être venus.
Merci à toutes et à toutes et à tous. Enfin, il n'y a qu'une personne masculine dans le groupe, mais on aurait pu utiliser le féminin qui l'emporte, mais soit. Ce fut une discussion hyper riche. Merci pour ça. On a divagué dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas, et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, avec une discussion en direct et en live. Un petit point agenda, allez, pour nourrir Bruxelles.
Des compagnons zapatistes qui arrivent en Belgique à partir du 10 octobre. Voilà, les zapatistes ont été une lutte de territoire sans nom qui inspire beaucoup de mouvements sociaux depuis 20 ans à travers la planète. Et il y aura une discussion spécifique sur les questions de lutte de territoire avec eux au quartier de la Baraque à Louvain-la-Neuve pendant une journée. J'ai pas la date là, mais du coup, allez voir le site, dont j'ai oublié le nom, mais Zapatistes en Belgique. Vous trouverez. Et il y aura une discussion avec eux et elles. Et puis le lendemain, on fera une visite de lutte de territoire dans le Borinage sur les luttes passées et actuelles. Voilà.
Merci pour ce point agenda. On va vous quitter ici et revenez au Baume.